Jean-Marc Jancovici et Jean-Marc Borello, les 45e Altermardi Parlons Solutions et la Manufacture Durable ont soumis au public de l'amphithéâtre Émile Boutmy de Sciences Po Paris l'équation « Urgence sociale, urgence environnementale, faut-il choisir ?» La quadrature du cercle est résolument politique.
Urgence sociale, urgence environnementale, faut-il choisir? C'est à guichet fermé que Jean-Marc Borello, le fondateur du groupe SOS, et Jean-Marc Jancovici, le fondateur du cabinet Carbone 4, ont tenu tribune commune dans le cadre du 45e Altermardi Parlons Solutions, dans le mythique amphithéâtre Émile Boutmy de Sciences Po Paris, en partenariat notamment avec Sciences Po Environnement et avec le comité 21. L'urgence environnementale, l'énergie, elle pilote tout le reste. Qu'est-ce que l'énergie? L'aptitude à changer le monde. Or, cette aptitude est prise en tenaille entre deux contraintes, celle des ressources en amont, celle du climat en aval. Ce n'est donc pas une question de maillot de bain ou faire le printemps arabe. La Russie avait arrêté, pour des raisons climatiques, ses exportations de céréales vers l'Égypte et la Tunisie. L'urgence sociale, le désarroi, c'est l'état des lieux. Il n'y a jamais eu autant de bidonvilles. Urgence sociale, urgence environnementale, faut-il choisir? Jean-Marc Borello et Jean-Marc Jancovici ont eu énormément de mal à se trouver des désaccords. Jean-Marc Jancovici.
En ce qui concerne les sujets énergie-climat, le problème a commencé, en fait, étonnamment, il a déjà commencé depuis les premiers chocs pétroliers. Ce qui a commencé depuis les premiers chocs pétroliers, par exemple, c'est l'accumulation de dettes. L'endettement des États n'existait pas avant 1974, ça date de cette époque-là. La titrisation dont on a beaucoup parlé au moment de la fameuse crise subprime aux États-Unis, c'est quelque chose qui s'est développé au début des années 80, et ça a été une réponse du système déjà à la difficulté croissante d'avoir une vraie croissance économique, entre guillemets. Sur la question du climat, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Maghreb a pour origine notamment, pas seulement, mais notamment des événements météorologiques qui se sont déroulés dans le monde en 2010 et qui ont contribué à affaiblir la quantité de céréales disponibles sur le marché mondial. C'est aussi lié à la contrainte sur le pétrole qui fait que les États-Unis convertissent une fraction croissante de leurs céréales en agrocarburants. Vous avez déjà un certain nombre de pays, la Chine par exemple, qui connaissent des sécheresses de plus en plus graves et qui sont en parfaite cohérence avec ce qui est attendu dans le cadre d'un monde qui se réchauffe. Donc en fait, l'urgence pourrait presque dire qu'elle n'est pas devant nous, elle est déjà pour partie derrière nous.
Jean-Marc Borello, maintenant que vous venez à Sciences vous faites ça le comble. Est-ce que le modèle social que vous avez développé pourrait devenir un modèle économique et politique?
Le modèle social que nous avons développé est un modèle économique, est un modèle politique, et il serait utopique de répondre à des enjeux majeurs avec des anciennes recettes. Donc aujourd'hui, ce qui est raisonnable, c'est d'inventer de nouveaux modèles économiques, sociaux et environnementaux. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est raisonnable, c'est faisable. Le groupe SOS et des tas d'autres gens le font.
Où est la solution?
Il n'y a pas une solution. Ça serait extrêmement prétentieux de dire qu'il y a une solution parce que les pays sont très divers, qu'ils ont des cultures diverses, des ressources diverses, des marges de manœuvre diverses. Pour prendre un exemple parmi d'autres, aujourd'hui, les pays qui ont énormément d'énergie renouvelable dans leur approvisionnement ont soit beaucoup de forêts par personne, soit beaucoup de montagnes par personne. C'est une simplicité biblique. Le vent ne pèse pas grand-chose, c'est l'hydroélectricité et la biomasse qui représentent l'essentiel de l'énergie d'origine renouvelable. Donc ce qui a conditionné les marges de manœuvre dans ce domaine, par exemple, c'est la géographie. Vous avez d'autres domaines dans lesquels la force agricole d'un pays, par exemple, c'est le fait que ce soit ou pas aux moyennes latitudes, avec des terres arables de bonne qualité, qui en général sont situées dans d'anciens bassins sédimentaires. C'est très peu une affaire de volonté des peuples et beaucoup une affaire de géologie et de géographie. Donc la solution au problème, elle n'est pas unique. Par contre, ce qui est unique, c'est le fait qu'on ne peut pas agir contre un problème qu'on n'a pas identifié. Si on ne connaît pas son ennemi, on ne peut pas agir contre. Et là, en l'occurrence, un mal qui est commun à toutes les démocraties, c'est une insuffisance de connaissances partagées entre les électeurs, les élus et les gens qui sont au milieu, c'est-à-dire les médias.
Est-ce que juste pour la carte postale, il y a 20 ans, quand vous avez créé le groupe SOS, vous aviez l'ambition de venir rue Saint-Guillaume?
Il y a 26 ans, quand le groupe SOS a été créé, nous avions l'impression que nous serions définitivement atypiques, minoritaires, marginaux. Et en fin de compte, que ceux qui l'ont créé depuis 25 ans ont fini par démontrer que c'était un modèle juste en avance sur son temps.
C'est bon signe ou mauvais signe?
C'est bon signe que les crises permettent d'évoluer et d'inventer de nouveaux modèles.
Le droit international, c'est plutôt aujourd'hui quand même la formalisation d'un rapport de force. Est-ce que vous pensez que le droit peut faire avancer les choses? Je pense à Copenhague qui a joyeusement planté, à Kyoto qu'on attend.
Alors, le droit international, il vient en fin de processus et pas en début. On a fait l'ONU parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale et qu'on s'est dit quand même il faut qu'on trouve un moyen d'éviter de se taper dessus. On a fait l'Europe exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'après le conflit, on s'est dit plus jamais ça et donc on va faire quelque chose qui permettra d'éviter que le problème se reproduise. Donc le droit international, C'est très rare dans l'histoire des peuples qu'il ait précédé la première manifestation d'un problème. En général, il l'a plutôt suivi pour éviter que ça se reproduise. Alors avec le changement climatique, on est dans une situation très particulière parce que le problème ne se produira qu'une fois, donc il n'y aura pas de répétition du problème. Et au moment où on commencera à en constater des effets considérés comme insupportables, la seule certitude qu'on aura à ce moment-là, c'est que ça sera pire derrière à cause de l'inertie du système climatique. Parce que l'essentiel de l'inertie du système climatique est dans l'océan, pas dans l'atmosphère. Et l'océan est un truc très inerte qui ne change pas d'avis une fois qu'il a décidé de partir dans une direction. Donc toute la difficulté dans cette affaire-là, quelque part, c'est d'avoir peur de quelque chose qui ne s'est jamais produit et de tout faire pour que ça ne se produise jamais. Il y a eu plus simple à gérer pour le droit international.
Est-ce que vous pensez que les politiques sont à la hauteur pour prendre en compte ce qui se passe ?
Je pense que les politiques n'ont pas mesuré l'importance des changements qui traversent la société. Ils devraient s'y pencher de plus près et entendre ce que disent les consommateurs et les citoyens. Ça changerait la vie de tout le monde.
Ce que vous appelez le chaos, qu'est-ce que c'est au juste ? En fait, ce n'est pas forcément une guerre, c'est une situation parfaitement inédite.
Il n'y a pas une seule définition du chaos. Ce qu'un Français appellera le chaos peut être une situation parfaitement sympathique pour un habitant d'un autre pays qui, depuis des dizaines d'années, connaît la famine et la guerre. Donc le chaos, on va dire, que c'est un état de dégradation fort de la situation par rapport à ce qu'on connaissait avant.
Sciences Po, ça a été une des dernières grandes écoles que vous avez approchées, semble-t-il. Est-ce que vous pensez que c'était une des plus difficiles à aborder ?
Non, parce que j'ai été maître de conférence à Sciences Po pendant plusieurs années. Je pense que c'est une école remarquable dans laquelle des esprits brillants se font. Il faut qu'on aille contribuer à l'enseignement de ces esprits pour leur permettre de voir quelles sont les solutions qui peuvent changer le monde.
Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer les choses ? Pas forcément travailler toute la journée pour courir après un revenu. C'est peut-être plus séduisant au bout du compte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'y aller ?
Alors, le mimétisme, mais quelque chose de particulièrement fort, c'est avec ça qu'on élève nos enfants et c'est avec ça que les sociétés se soudent. S'il y avait zéro mimétisme et qu'on n'était qu'une bande d'individus sans aucune pensée commune, sans aucune envie d'imiter le voisin, etc., en tant qu'espèce, on n'aurait jamais survécu. Sauf qu'aujourd'hui, cette envie de faire comme le voisin, à partir du moment où on est collectivement pris dans quelque chose qui n'est pas durable, ça se retourne un peu contre nous et c'est quelque chose qui est susceptible de nous amener des ennuis significatifs. Mais il y a une partie de notre code génétique qui joue contre nous dans cette affaire-là. Hein.
Si vous devez souffler quelque chose à l'oreille d'un politique, et peut-être que vous le faites, qu'est-ce que vous lui dites de faire, au moins de retenir une chose ?
Écoutez ce bouleversement profond qui traverse la société française, européenne et la plupart des pays du monde et qui aspirent à un monde différent qu'il est possible de construire ensemble.
Vous êtes consultant ? Est-ce qu'il y a des politiques qui vous appellent pour vous consulter, pour que vous les conseillez ?
Jamais. Les clients de notre société sont essentiellement des entreprises. On a extrêmement peu de collectivités locales comme clients, à notre grand regret, mais c'est lié à quelque chose de très particulier que connaissent très bien les gens qui travaillent avec les collectivités locales, c'est la procédure d'appel d'offres. Notre métier est un métier dans lequel on doit, si je dois employer une expression très pompeuse, penser l'impensable. Et l'impensable ne se met pas dans un cahier des charges. Ce que vous mettez dans un cahier des charges, c'est du connu, connu et archi connu et archi revu. Donc si vous voulez amener de la rupture par le biais d'un appel d'offres, c'est juste un système qui n'est pas fait pour ça. Donc on ne travaille pas avec les collectivités locales à cause de ce système-là. Et en ce qui concerne les élus nationaux ne demandent jamais rien à personne, sauf quand vous commencez à avoir votre nom partout dans le journal. Et à ce moment, ils demandent à monsieur machin ou à madame truc de s'occuper d'un problème bien particulier. Mais ça devient une mission, ça ne devient pas une commande au sens d'une commande rémunérée où on vous paye pour faire un boulot. C'est on vous demande votre avis sur un sujet.
Moralité, la solution sur Terre ne viendra pas de la planète Mars. Exemple d'aberration, 80% des gens vivent en ville, un certain nombre d'entre nous d'ailleurs enfermés dans un bureau, le nez collé à un ordinateur. On passe sur la question existentielle, encore que, il y a peut-être autre chose à faire. Vous avez dit énergie et l'énergie musculaire. C'est une des solutions décapantes proposées par Jean-Marc Jancovici à remettre bien sûr dans son contexte. Changer le monde, tout un programme, c'est aux éditions Kalman-Lévy. Urgence sociale plus urgence environnementale, le choix de l'amphithéâtre Émile Boutmy n'était pas un hasard. Émile Boutmy avait été sidéré par l'absence de connaissances politiques des acteurs de la Commune de Paris et il y avait remédié en créant Sciences Po Paris. Urgence sociale plus urgence environnementale égale, et oui, choix politique. Comme dirait Madame Michu, aussi bien que les météorologues, c'est de saison.